Bienvenue sur Clapotis. Cet épisode fait partie d'une série de podcasts qui a pour but de vous expliquer en quoi il est intéressant de s'attarder un temps sur la signification, la portée et la symbolique des titres, des œuvres à votre programme. En effet, retenir des éléments sur le titre va vous permettre à plusieurs occasions de les exploiter. Prenons par exemple l'épreuve orale. Eh bien, parler du titre, cela est utile en guise d'introduction générale, montrer la portée. Bien sûr, vous allez le faire de façon très sommaire et rapide, mais vous pouvez l'intégrer dans l'introduction. Parler du titre, c'est aussi la possibilité d'exploiter quelques éléments que vous allez entendre ici lors de la lecture linéaire. Vous analysez une partie de phrase, de vers, et cela va vous permettre justement de faire un clin d'œil à la signification du titre. Mais vous pouvez aussi utiliser ce que vous allez écouter aujourd'hui en guise de conclusion et plus particulièrement pour la fameuse ouverture pour élargir la réflexion. Enfin, on peut imaginer que vous allez utiliser la signification, la portée du titre comme exemple pour appuyer un argument dans la fameuse dissertation littéraire écrite. Donc vous voyez que s'intéresser au titre n'est pas anodin et va vous permettre d'alimenter toute votre argumentation tant à l'oral qu'à l'écrit. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser plus particulièrement à l'œuvre de Marguerite Yourcenar, à savoir les Mémoires d'Adrien. Alors bien sûr, dans ce titre, on va s'intéresser dans un premier temps à la première personne concernée par l'ouvrage, à savoir ce fameux empereur Adrien. Alors, qui était-il? Déjà, on peut le situer, si on donne ses dates de naissance, 76-138 après Jésus-Christ. Il a été empereur de 117 à 138, et c'est un des plus grands empereurs de cette époque. Empereur, pourquoi un des plus grands empereurs? Parce que, bon, déjà, il s'inscrit dans une période où Rome est maîtresse du monde, et puis parce qu'il était admiré avant tout par sa politique de paix, cette fameuse Pax Romana qu'il va mettre en pratique, politique de paix fondée sur le renoncement à certaines conquêtes orientales, et aussi renoncement, mais surtout consolidation de positions de défense. Vous en avez des vestiges, notamment encore au Royaume-Uni, par le fameux mur d'Adrien, qui montre et qui traduit cette volonté de non pas avoir une politique d'expansion, mais de consolider des territoires. Et puis aussi, il a été énormément apprécié donc par cette politique, mais parce qu'il a donné à Rome certainement les monuments les plus importants, comme le Panthéon, le château Saint-Ange et la fameuse Villa Adriana, qui va nous intéresser particulièrement et qui va constituer le fameux déclic chez Marguerite Yourcenar, un déclic pour cette civilisation antique pour laquelle elle va être extrêmement passionnée tout au long de sa vie. Autre point à retenir aussi, Adrien est un des plus grands empereurs de cette époque, mais il succède aussi à un autre empereur extrêmement connu, célèbre et apprécié à l'époque, qui est Trajan. Il en avait été très proche, et effectivement, à la mort de son père, alors qu'il n'a que 10 ans, Trajan, qui est son cousin germain par sa mère, va devenir un de ses tuteurs. Et Adrien va suivre dans ses multiples voyages Trajan, qui va finir par le choisir comme son fils adoptif. Et sur son lit de mort, il va décider de lui léguer cet empire. Et puis aussi, il faut savoir qu'Adrien est un jeune homme, avant d'être empereur, extrêmement cultivé. Il étudie avec passion le grec, on le surnommera d'ailleurs le Graeculus, ça veut dire littéralement le petit grec, et il aura un goût très prononcé pour les études et les travaux intellectuels, au même titre que notre fameux auteur Marguerite Yourcenar. Alors on peut dire que les Mémoires d'Adrien, c'est finalement un ouvrage qui est l'histoire d'une rencontre. Une rencontre entre cette personnalité historique que l'on vient d'évoquer, ce grand empereur de la civilisation romaine, et puis un auteur, Marguerite Yourcenar, qui est une passionnée de l'Antiquité, comme on va le voir. Cette rencontre, elle date de 1924. Marguerite Yourcenar est à ce moment-là une jeune fille. Elle suit depuis son enfance son père dans tous ses voyages. Et en 1924, elle part avec lui en Italie. Et là, c'est un choc esthétique, culturel et intellectuel. Elle découvre la Villa Adriana dont on a parlé précédemment. Ce site antique est alors et se situe à Tivoli, qui est à peu près une trentaine de kilomètres de Rome. Cette villa a donc été construite au IIe siècle, à l'époque, vous l'avez compris, d'Adrien, bien sûr, et malheureusement, elle va être très vite abandonnée au IIIe siècle. Elle va être redécouverte à la Renaissance pour être malheureusement pillée en partie, et c'est en 1870, après l'unification italienne, que des fouilles vont être entreprises et on va découvrir cette fameuse villa magnifique, somptueuse, qui est la trace de cette grande époque de l'histoire romaine. Il faut savoir qu'encore aujourd'hui, la plus grande partie du site reste à explorer. Et donc Marguerite Yourcenar, en 1924, visite ce site. Elle va le visiter de nombreuses fois, maintes et maintes fois encore par la suite. Et pour elle, elle y va pour aussi rendre hommage à celui qui l'a fait donc construire, cet empereur Adrien. Donc il y a une première rencontre avec Adrien à travers ce fameux site qu'est la Villa Adriana. Et puis, il faut savoir que cette rencontre, elle ne se situe pas que dans ce lieu géographique. Marguerite Yourcenar connaît l'empereur, bien sûr, par l'intermédiaire des livres. À ce propos, il paraît utile de raconter cette petite anecdote. Elle a suivi une formation classique, elle étudie les langues, les civilisations anciennes, elle maîtrise le grec et le latin, donc elle a une maîtrise parfaite de cette culture. Et dans sa maison située sur la côte est des États-Unis, il faut savoir que les murs étaient tapissés par un nombre incalculable, on en dénombre à peu près 7000 livres. Donc ces murs étaient tapissés de tous ces ouvrages en référence à la culture antique. Et donc, vous le comprenez qu'elle est imprégnée depuis fort longtemps par cette culture, cette civilisation. Et donc, tous ces éléments-là vont être le vivier, le socle de ce qui va devenir ce fameux ouvrage, Les Mémoires d'Adrien. Ainsi, au gré de ces études consacrée à cette civilisation et langue ancienne, vient petit à petit l'idée dans l'esprit de Marguerite Yourcenar de réaliser un ouvrage qui rendrait justement hommage à tous ces auteurs antiques, à tous ces hommes qui ont marqué l'histoire romaine. Et donc vient lui venir l'idée d'écrire effectivement un ouvrage à propos de l'empereur. Et bien sûr, ses principales sources vont être des sources d'informations qui sont des sources historiques. Et en particulier, elle va se servir de l'ouvrage qui s'appelle tout simplement « L'histoire romaine », rédigé et réalisé par un historien du 2e, 3e siècle après Jésus-Christ, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est important dans les références de Yourcenar, qui est le fameux historien Dion Cassius. Elle va s'inspirer de lui, elle va récolter des sommes phénoménales d'informations pour se renseigner sur les faits et gestes de l'empereur. Et donc, les mémoires d'Adrien vont paraître en 1951, imaginez-vous bien, après 25 ans de recherche et de travail intense. Il nous reste à nous intéresser au titre dans sa globalité, mais surtout au titre et au terme « mémoire ». Qu'est-ce qui sera important dans votre étude de développer ? Et bien sûr, là, on se positionne par exemple à l'oral, dans votre introduction générale, il faudra évoquer très rapidement donc cet empereur, cette rencontre avec l'auteur, mais aussi le mot « mémoire ». Marguerite Yourcenar choisit ce terme « mémoire » en se référant bien sûr à un genre qui est issu d'un nom latin, encore une fois, « memoriae ». C'est une forme littéraire ambiguë, pourquoi ? Même si elle est simple à comprendre, ce qu'on vient d'évoquer, auteur, narrateur, personnage, c'est la seule et même personne. Ambiguë parce qu'on sait très bien que les mémoires contiennent, déjà et depuis l'Antiquité, une visée apologétique. Ça veut dire quoi ? Le but d'une apologie, c'est bien sûr de dresser un portrait élogieux de soi-même dans un contexte de propagande politique. C'est quelque part un récit qui va donc être orienté. Et donc, elle choisit ce terme « mémoire » pour aussi relever quelque part un défi littéraire, parce que justement, ce qu'elle va montrer, c'est la singularité de son entreprise. Bien évidemment, il ne s'agira pas de mémoire en tant que telle, puisque elle va prendre la voix de l'empereur Hadrien, donc la voix d'un personnage historique et politique réel, mais bien sûr, par le biais de sa plume et de ce qu'elle a pu restituer, par le biais de ce qu'elle a pu s'imprégner hein, de ce parcours et cette carrière politique. Donc, à proprement parler, on ne peut pas dire qu'il s'agit de véritable mémoire, puisque, par définition, Hadrien n'en est pas véritablement l'auteur. Et c'est ce que vous montrerez avant tout dans cet ouvrage, c'est vraiment sa singularité, puisque finalement, on peut plutôt parler de pseudo-mémoire, voire même de mémoire apocryphe. Alors apocryphe, ça veut dire tout simplement, ça vient d'un terme grec hein, qui voulait dire caché, secret. Quelque chose d'apocryphe, c'est quelque chose dont l'authenticité n'est pas établie. Et donc elle joue sur ce côté justement flou, aux frontières peu établies. Elle écrit donc des pseudo-mémoires qui pourraient être des mémoires apocryphes, qui ne sont pas authentiques, qui sont reconstituées. Et en fait, qu'est-ce qu'elle veut montrer par là? C'est justement que son ambition n'est pas de chercher une forme d'authenticité historique, puisque ce n'est pas possible. C'est forcément des morceaux de puzzle qu'elle va réagencer au gré de sa plume. Et ce qu'elle veut montrer ici, c'est que, en fait, à travers ses pseudo-mémoires, elle essaie de rendre compte de la personnalité complexe d'un personnage au gré des pages. Elle rend compte justement de cette personnalité aussi extrêmement riche. Et donc, sa visée n'est pas de faire une écriture apologétique, bien sûr, mais de faire une écriture beaucoup moins officielle à travers ses mémoires, ses pseudo-mémoires. Et parce que ces mémoires seront moins officielles, elles seront certainement beaucoup plus proches de la vérité, beaucoup plus proche de la sensibilité de l'empereur, et donc elle va forcément faire en sorte que le lecteur soit beaucoup plus touché. Et c'est là aussi tout l'ambiguïté et aussi le paradoxe, c'est ses mémoires sont moins authentiques, c'est évident, mais elles sont peut-être plus vraies, plus sincères, de par cette démarche qui consiste à imaginer ce qu'aurait pu dire l'empereur Hadrien. Vous l'avez donc compris, en étudiant simplement le titre, de quoi se rend-on véritablement compte? Eh bien, d'une part, que le nom Hadrien va renvoyer à une réalité historique, à l'ouvrage, et puis que le terme mémoire soulève la véritable problématique, ou du moins le véritable défi littéraire que s'est lancé Marguerite Yourcenar, rendre compte de la vie d'un empereur en imaginant ce qu'il aurait pu écrire. Donc c'est un vrai défi, c'est une vraie prouesse littéraire, puisqu'au final, vous montrerez aussi qu'au gré des pages, on a vraiment l'impression, hein, on oublie complètement la plume de Yourcenar, on a vraiment l'impression que c'est l'empereur Hadrien qui parle, qui réfléchit et qui chemine au gré de ses questionnements. Et donc le titre, bien sûr, va annoncer ces deux pans essentiels de votre étude, l'angle historique et la véritable réflexion littéraire sur ce que pourraient être des mémoires de ce type, hein, des mémoires d'un empereur, véritablement personnage et personnalité historique. Bien évidemment, n'oubliez pas de vous référer au visuel, à l'infographie qui sont présents sur le site, la plateforme Podcastix, pour pouvoir soit le regarder tout en écoutant le podcast ou le conserver en guise de synthèse. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode consacré au titre des œuvres au programme. Je vous dis donc à très vite sur Clapotis.